I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Libre et curieux. Littérature et bière glacée.
Grande Fleur Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Fleur Café par Hugues Robert.
Bonsoir, bienvenue au Grande Fleur Café. On est très heureux de vous retrouver cette semaine. On continue en fait ce qu'on a commencé la semaine dernière. On va parler de sorcières à nouveau. La semaine dernière avec nous, on avait Céline Minard qui avait introduit une bonne dose de prêtresse ésotérique, et mystique et pourtant tout à fait contemporaine avec ses Bacchantes. Donc on vous rappelle que c'était un roman de casse, de cambriolage où trois femmes s'emparent de la cave à vin la plus sophistiquée du monde qui contient près de 350 millions de dollars de grands crus et qui en font quelque chose, il faut absolument pour ça lire Bacchantes, donc paru chez Rivage il y a quelques semaines. On continue avec Les Sorcières. Les Sorcières chez Ground Control, c'est pendant 12 jours, ça se termine bientôt. On a sélectionné pour vous un assortiment de livres aussi bien de fiction que de non-fiction à propos de sorcières. Et on va vous parler ce soir de ceux qu'on n'a pas évoqués ou qu'on a évoqués très fugitivement la semaine dernière. Donc Les Sorcières, ce qui est frappant, c'est que depuis le 19e siècle, même si c'était un peu de la farce chez Jules Michelet, on l'avait mentionné, l'une des plus grandes falsifications historiques, volontaires et involontaires, à propos des procès des sorcières en fait au Moyen-Âge et à la Renaissance. Mais malgré ce départ un peu chaotique, les sorcières sont devenues un objet d'étude historique à partir de la fin du 19e, du début du 20e. Et le travail qui fait vraiment date, celui dont d'ailleurs Céline Minard nous parlait, c'est le célèbre « Le sabbat des sorcières » de Carlo Ginzburg. Alors Carlo Ginzburg qui est un historien assez incroyable, il faut lire Carlo Ginzburg, c'est un historien qui a inventé, pas tout seul, mais presque à lui seul, la micro-histoire, donc une histoire qui s'occupe de toute petite chose. Son premier grand ouvrage était Le fromage et les vers, V-E-R-S, et parlait en fait d'un meunier au XVIe siècle. Et à partir de ça, construisait toute une vision en fait historique, très concrète, très précise. Et il a fait donc ce travail ensuite sur le sabbat des sorcières, en s'intéressant aussi bien aux sources historiques documentées à partir des procès, en fait, de tous ces témoignages dont on subodore qu'ils étaient tous plus farfelus les uns que les autres, mais qui avaient force juridique. Donc, Carlo Ginzburg, le sabbat des sorcières, il faut absolument vous le procurer et le lire. Derrière ce courant historique, ce qui est frappant ces dernières années, et c'est pour ça qu'on a parlé de retour des sorcières, donc le célèbre slogan des années 70, le slogan militant italien, tremate, tremate, le streghe sono tornate, tremblez, tremblez, les sorcières sont de retour, c'est bien l'utilisation, le retournement en fait de la métaphore. Ne plus considérer qu'être appelé sorcière pour une femme, c'est une insulte, mais au contraire, c'est une revendication, c'est un élément militant, c'est un élément d'affirmation. Donc tout ce travail on l'a vu en France se concrétiser dans une superbe collection qui est née il y a quelques années seulement, hein, chez Cambourakis, la collection Sorcière, qui joue de ce retournement de la métaphore pour nous proposer tout un tas d'ouvrages qui prennent très au sérieux en fait le contenu féministe, le contenu revendicatif, le contenu lutte hein, qu'il peut y avoir dans le thème de la sorcière contemporaine. Donc on se doute bien que là on est très très loin de Walt Disney, on est très très loin de Ma sorcière bien-aimée, la série des années 50 bien connue, enfin, Bewitched. Avec ces collections, donc on a évoqué certains des ouvrages la semaine dernière. L'un de ceux qu'on n'avait pas évoqué, c'est justement peut-être l'ouvrage fondateur de la collection. C'est « Sorcières, sages-femmes et infirmières » de Barbara Ehrenreich et de Deirdre English. C'est pas évidemment par hasard si ces trois professions, deux tout à fait officielles, sages-femmes et infirmières, l'une qu'on hésite à qualifier de profession, sorcière, sont associées. Il y a bien là un enjeu, en fait, dans le travail du corps, dans le travail du corps féminin, dans le travail du corps par les femmes. C'est aussi quelque chose qu'on retrouvait dans un roman, hein, un roman très connu, qui est le premier roman de Carole Martinez, célébré par de nombreux prix, Le Cœur Cousu, où dans l'Espagne des années 50, 60, 70, il y avait une étrange histoire en fait qui parlait aussi bien justement de couture que dans les interstices de sorcellerie. Les autres titres qui méritent justement, et là qui poussent le travail de la métaphore dans la collection Sorcière de Cambourakis encore un cran plus loin, il faut noter absolument Bâtir aussi, hein, de Six et des ateliers de l'Antémonde. C'est paru en 2018, c'est à la fois un très bel hommage à la grande Ursula Le Guin et à son utopie ambiguë des dépossédés. C'est aussi une passionnante fiction collective qui explore les voies de ce qu'elles appellent la démasculinisation du monde. Dans la même collection, Camille Ducellier, avec beaucoup d'humour, beaucoup de ruse, a écrit en 2011, et il vient de reparaître, puisqu'il était totalement épuisé, un petit guide du féminisme divinatoire, qui donc se présente sous forme de guide pratique, et qui réussit un équilibre assez miraculeux entre le très sérieux et le très farceur. Il explore avec robustesse ce que les pratiques ésotériques de divers horizons, justement avec esprit de sérieux ou sans esprit de sérieux, peuvent apporter concrètement au féminisme contemporain. Donc c'est le petit guide du féminisme divinatoire de Camille Ducellier. Dans le même ordre d'idées, Juliette Rousseau, toujours dans cette collection, a fait paraître cette année également un ouvrage qui s'appelle « Lutter ensemble ». Alors là, on pousse la métaphore sorcière à son plus lointain, parce que il est à peine question de sorcière dans l'ensemble de cet ouvrage, qui se sous-titre « Pour de nouvelles complicités politiques » et qui est en réalité un travail d'enquête, de découverte, de nouvelles formes d'organisation qui éviterait de reproduire totalement ou partiellement au sein des collectifs en lutte, les travers dénoncés justement chez leurs cibles. Donc en réinventant, il y a une réflexion qui joue avec la sorcellerie, en réinventant le rapport à la violence qui est nécessaire dans le combat politique et militant. Un livre absolument passionnant, extrêmement documenté. Lutter ensemble de Juliette Rousseau. La seule bande dessinée de notre sélection, toujours dans la collection Sorcière de Cambourakis, parue également en 2018, c'est le travail graphique et scénaristique de Tommy Parrish, qui est une Australienne qui vit à Montréal et qui impressionne dans ce mensonge, au pluriel, par sa capacité à saisir les détails du quotidien pour leur rendre un sens à la fois rebelle et crypté, et donc évidemment magique. Alors, en dehors de la collection Cambourakis, il y a aussi des ouvrages qui sont parus récemment qui utilisent cette métaphore et qui jouent avec. L'un des plus connus est sorti il y a un an et demi, c'est le célèbre « Les sorcières de la République » de Chloé Delhomme, où là, les sorcières de la République, au pied de la lettre, forment un parti politique et utilisent une sorcellerie qui est partiellement métaphorique et partiellement surnaturelle pour refonder la République française sur un modèle extrêmement différent que je vous laisserai découvrir donc dans les sorcières de la République. Alors, ouvrages historiques également récents qui sont des ouvrages fondateurs presque à l'égal en fait des travaux de que nous mentionnons tout à l'heure, de Carlo Ginzburg, c'est La sorcière et l'Occident de Guy Bechtel, et puis une somme très documentée, un ouvrage universitaire qui se lit néanmoins, je vais pas dire comme un roman, mais pas loin, d'Armel Lebras-Chopard, Les putains du diable, procès des sorcières et construction de l'État moderne, tout un programme. Il faut mentionner, bien entendu, le plus ancien ouvrage de notre liste, celui de Marie Scondé, dont on sait qu'elle a remporté maintenant, il y a quelques mois, le Nobel alternatif, puisqu'il n'y a pas eu de prix Nobel de littérature cette année, pour justement d'y faire scandale de sorcellerie en Suède, des scandales de harcèlement sexuel, bien entendu. Marie Scondé, Moi Tituba sorcière, qui est paru en 1986, avait vu la grande romance guadeloupéenne s'emparer de l'épisode des sorcières de Salem en 1692 et y tisser en une toile très serrée, magnifique, toute la trame de l'esclavagisme aux Antilles et en Amérique du Nord dans un petit texte de 230 pages qui se lit à toute allure et qui est assez magique. On va également mentionner, c'est pas son ouvrage le plus connu, loin de là, de Marine Diaye, La sorcière. C'est 10 ans avant Trois femmes puissantes. Et Marine Diaye explorait dans celui-là, dans un petit F3 d'Orléans, d'une manière qui est à la fois authentiquement terrifiante et follement drôle, par le biais de la métaphore sorcière prise au pied de la lettre, dans un quotidien provincial donc un peu engoncé, ce qui arrive à la puissance magique, lorsqu'elle est encore que potentielle et un peu maladroite. Et donc il y a beaucoup d'humour dans La sorcière, mais c'est un humour qui fait en même temps frémir, parce que c'est pas un livre drôle, hein, et je vais surtout pas vous raconter la fin, donc, de La sorcière, paru en 1996 chez Minuit, de Marine Diaye. On a évoqué, bien entendu, la semaine dernière avec Céline Minard, qui connaît bien cet auteur et qui nous en avait déjà parlé il y a quelques années chez Carib, Jeanne Favre-Saada, donc la grande ethnologue française, qui a à la fois fait paraître un ouvrage fondateur en 1977, Les mots, la mort, les sorts, le fruit de 3 ans d'observation patiente, discrète, intense, dans le bocage mayennais, pour y traquer la réalité, l'actualité, la complexité des ensorcellements et des sorcellements qui hantent, contre toute attente, parce qu'on parle du milieu des années 1970, hein, aussi bien la mémoire que le présent paysan de l'époque. Donc c'est un ouvrage scientifique de premier plan et qui se lit à la manière d'un roman d'investigation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail de Jeanne Favre-Saada pour obtenir la confiance des gens sur un sujet qui n'appelle pas justement a priori la confiance, bien au contraire. Et puis elle a poursuivi le travail de Les mots, la mort, les sorts bien des années plus tard avec un petit ouvrage qui s'appelle Désorceler, et où elle raconte avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup d'humilité, le fait qu'elle n'est pas sortie indemne elle-même de cette aventure. Simultanément à son travail d'enquête sur la sorcellerie, elle menait une psychanalyse, et en dehors même de ce travail-là qu'elle avait confié dans un journal de psychanalyse, avec des sorcelets, elle nous raconte à quel point, en s'intéressant d'aussi près à ces pratiques de désorcellement, elle avait fini elle-même par être curieusement, à la fois à son insu, à son corps défendant, impactée en fait par tout ce qu'elle rencontrait, tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait, et que ça n'a pas du tout été neutre pour elle, et que 20 ans après, elle s'en souvient encore quasiment dans sa chair, quoi, de cette formidable enquête de 3 ans en Mayenne. Alors, on a encore quelques autres ouvrages dont on tient à vous parler. On va néanmoins faire une petite pause musicale parce que les sorcières sont aussi très présentes dans la musique, vous le savez, et voilà.
Grandflore Café. Les coups de cœur du libraire.
Donc une émission littéraire sur les sorcières, fût-ce un deuxième épisode, ne serait évidemment pas complète si on ne parlait pas de James Morrow. James Morrow, donc cet auteur américain, classé parfois un peu abusivement en science-fiction au sens large, qui explore depuis 20 ans dans des romans toujours assez extraordinaires, finalement ce que la religion, pour le meilleur et pour le pire, fait aux gens. Donc il explore ça dans des contextes tout à fait contemporains. On pense à sa célèbre trilogie En remorquant Jéhovah, où en fait Dieu est mort, et ce qui est ennuyeux, c'est que son cadavre fait 2 km de long et est tombé dans le golfe de Guinée, et il faut le remorquer, le mettre à l'abri pour pas qu'il pourrisse en fait dans ces eaux un peu chaudes, et le remorquer jusqu'au Groenland. Donc la trilogie de Jéhovah, c'est quelque chose, et seul James Morrow peut inventer des trucs pareils et vous emmener pendant plus de 700 pages en fait dans un roman où le surnaturel est quotidien, mais traité avec un infini sérieux en fait par les gens qui y sont confrontés. Il a exploré donc notre sujet d'aujourd'hui avec un superbe roman qui s'appelle Le dernier chasseur de sorcières, et qui, comme presque toujours quand James Morrow se pique d'histoire, part de fait absolument réel, qui est que en Angleterre, le cadre juridique permettant de brûler les sorcières sur des bûchers n'a été aboli en fait que en 1709, hein, et que la dernière sorcière a été brûlée en 1709, ce qui fait quand même relativement récemment, on pourrait en trouver, et pas du tout donc au Moyen Âge comme on l'imagine parfois. Le dernier chasseur de sorcières est un roman qui est à la fois très documenté, très ironique, voit toutes ces choses sous l'angle en fait du business de chasseur de sorcières, et la façon dont le chasseur de sorcières le plus important d'Angleterre, voyant arriver cette opinion publique et puis ce fait que finalement ça va plus être légal en fait de brûler des sorcières, il est évidemment très ennuyé parce que c'est son gagne-pain qui va disparaître, et il y a un jeu très étonnant qui se met en place entre donc ce chasseur de sorcières et sa fille qui est elle un pur produit des Lumières alors naissante, hein, en ce tout début 18e, qui est rationaliste, convaincu, qui a une grande admiration pour les scientifiques, qui sont en train d'inventer la physique moderne. Et James Morrow, en fait, joue extrêmement habilement de cette confrontation entre la superstition, la raison, et la façon de transformer la superstition en un juteux gagne-pain. À côté de James Morrow, la somme la plus récente, donc qui est parue cet automne et qui nous retrace finalement l'histoire même du concept de sorcière, la façon dont il se relie aux luttes féministes, c'est Le Sorcière de Mona Cholet, donc un très bel ouvrage, à la fois très sérieux historiquement, très varié dans ses sources, et qui réussit en se penchant de très près sur trois sorcières historiques, hein, documentées, réelles, une synthèse très saisissante du sens contemporain de la sorcière, à la fois en victime absolue et en rebelle obstinée. On revient à la collection Cambourakis, on va mentionner deux derniers titres, et on aura fait un peu le tour de ce qu'on voulait vous proposer à partir de cette collection. C'est l'un des ouvrages fondamentaux de la collection, de Starhawk, donc cette autrice américaine. C'est son deuxième texte publié. Donc elle est connue parce que c'est l'une des plus grandes et plus célèbres néo-paganistes. C'est une écoféministe convaincue. C'est probablement l'une des plus fortes influences qui soit sur les mouvements contemporains de résistance altermondialiste au quotidien. Et c'est très intéressant, en lisant son Rêver l'obscur, Femme, magie et politique, de voir comment le recours à la fois métaphorique mais à la fois instrumental à la notion de sorcellerie, en fait, peut être un moteur d'action politique directe et non violente. C'est assez fascinant, c'est pas quelque chose auquel on s'attend nécessairement, et Starhawk nous guide dans cela de façon extrêmement convaincante. Dans un ordre d'idées voisin mais un peu différent, et toujours dans la collection Sorcières de Cambourakis, La langue des oiseaux de Rachel Esterman-Ullman transforme un certain nombre d'icônes de la pop culture ou du féminisme et pas mal de lieux communs qui sont un peu piégeux en des tests de personnalité, comme on en trouve dans les mensuels ou dans les hebdomadaires depuis une trentaine d'années, des tests de personnalité qui sont à la fois très humoristiques et assez songeur. Et donc, Rachel Esterman-Ullman, qui est une plasticienne et une poétesse, elle invente une langue à part qui oscille entre des mondes distincts et qui s'y ferait un chemin à nos côtés de lectrice ou de lecteur tout à fait passionnant. Alors, la revue ne serait pas complète si on ne revenait pas, et cette fois un peu plus en détail, sur peut-être l'ouvrage le plus surprenant de cette sélection, qui est tout récent, hein, qui a quelques semaines, qui s'appelle « Confession d'une séancière » de Katie Stewart. « Confession d'une séancière » s'empare d'une douzaine en fait, de contes traditionnels martiniquais qui traitent de magie, de sorcellerie. Une séancière, vous l'aurez saisi, qui tient séance, c'est une sorcière. Et c'est elle qui nous guide en fait dans ce labyrinthe d'histoires, de contes, qui sont pas des contes pour les enfants, qui sont des contes anciens, mais qu'elle a travaillé au corps pour les rendre encore plus contemporains, encore plus éternels. Et on y a évidemment des histoires de tromperie, de vengeance, mais aussi des histoires de dieux ou de déesses qui arpentent la terre à nos côtés et qu'il faut être très vigilant pour ne pas les vexer par inadvertance ou par calcul, parce que les conséquences peuvent être tout à fait terribles. Et Katie Stewart a tissé en fait ce matériau de conte dans une langue très goûteuse, très, très joyeuse, où il y a évidemment à la fois toute une partie de martiniquaise qui vibre, mais aussi quelque chose qui s'étend bien au-delà en fait du folklore historique antillais, quelque chose qui nous touche dans notre présent en fait, dans toutes les questions qui peuvent se poser. Et c'est assez magique, il faut bien le dire, de voir un matériau folklorique ancien reprendre vie, reprendre actualité, reprendre pertinence sous cette forme-là. Donc, Confession d'une séancière de Katie Stewart, c'est aux très belles éditions MU, lyonnaises. Et c'est le... Bon, voilà, si vous deviez choisir un seul de ces 14 ouvrages que l'on vous recommande, je pense que ce serait Confession d'une séancière. Et puis après, vous aurez le temps de vous plonger dans les autres. Et donc, voilà, on arrive à peu près au bout de ce qu'on s'était fixé pour cette deuxième émission consacrée aux sorcières. Et donc, on va se quitter naturellement en musique, avec une version d'une chanson qui est un très grand classique que l'on doit à Screaming Jay Hawkins, mais qui a été reprise d'une façon assez astucieuse et très belle par Annie Lennox. Et donc on se quitte avec I Put a Spell on You.
I put a spell on you. Because you're mine, you better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You're running around, you know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine.
contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.